Parce que, Inigo, I wanted some kind of a discussion with Eric on the question of pricing because, Eric, you mentioned that. No, because I'm very interested in that question. And personally.
C'est la dispute là.
Non, c'est un petit peu vexant, quoi. Non, non, mais maybe Eric on pricing and Inigo.
Si je peux ajouter un truc à ce que je disais plus tôt, la présentation d'Inigo était parfaitement cohérente, c'est-à-dire lorsqu'on réfléchit à partir du marché, le marché produit des prix, ce que j'ajoutais, c'est les outils de la finance spéculative, les dérivés. Ce qu'ils font, c'est qu'ils arrivent à établir des continuités entre des domaines qui seraient a priori non reliés. Donc, ce que Bob Meister appelle l'intertemporalité de la finance. La possibilité de mettre en rapport des formes, des valeurs, pour le dire de façon très abstraite, qui ne sont pas a priori en relation. Donc, la finance, elle travaille à des mises en rapport abstraites entre différents éléments, et c'est plus l'essence du produit dérivé, c'est que ce n'est pas nécessaire que ça soit réduit à un prix, à une forme monétaire, à strictement parler. On peut simplement entretenir deux flux abstraits et les tenir en rapport suffisamment longtemps pour produire quelque chose comme une intelligibilité. Et c'est une forme d'argent plus abstraite. Donc, on n'est pas obligé de tout ramener à un équivalent général, disons. Même si, bon, au final, il faut que ça soit liquide, il faut que ça soit potentiellement échangeable sur un marché. C'est un degré d'abstraction qui complexifie la question du prix, pour le dire d'une certaine façon. Et disons, pour faire full circle, réfléchir à la dépossession historique, là, c'est là où le travail de Bob Meister m'intéresse énormément. Les formes de dépossession historique, on ne sait pas exactement comment les monétiser dans le présent. Mais il faut bien être capable, un peu comme Inigo le mentionnait par rapport au défi écologique, hein, de donner un prix au capital naturel, tel qu'on l'appelle. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il y a quelque chose de performatif dans l'idée même de donner un prix à ce qui, jusqu'à aujourd'hui, restait exclu de la monétisation. Donc, disons, ma manière de répondre, ça serait de dire, le temps que ça prend à donner un prix à quelque chose va commencer à être de plus en plus intéressant et important dans les années à venir.
Juste avant qu'Inigo réponde, juste par rapport à ce que tu viens de dire sur le prix et le rapport à l'écologie, je pensais à l'image, la métaphore que tu as utilisée à la fin, qui aujourd'hui a un prix, ce qu'on appelle les cat bonds, qui sont des produits financiers sur les assurances sur des catastrophes écologiques de type tropical storm. C'est-à-dire que ce sont maintenant les tempêtes tropicales sont des produits financiers, en tout cas les modèles d'assurance. Donc, mais bon, c'était juste peut-être. Maybe Inigo, you want to react on the question of pricing, its relation to derivatives.
In relation to the derivatives, I think I would just go more generally here and talk about, so how I understand the price process as effectively, an organization of risk via a mediating machine of money, right? And there's, the derivatives are a specific layer of that, where I've talked about it as a second order referential system, self-referential system, right? But the whole, I mean, well, this is, you've heard me also talking about this recent, pandemic in terms of this, right? So, there was a specific, way in which the price process has organized risk relative to the possibility of a pandemic, right? And the possibility of a pandemic was totally conceivable. It was very, you know, forecasted. Nobody knew when it would happen, but we knew that it was very likely to happen, increasingly likely. And the way that the risk in the capitalist system was organized relative to that was to think, oh, well, it doesn't matter. You know, people will die. It's okay. You know, it's there could have been a different operating system for organizing risk, right? That would have been intrinsically about the value of, you know, which had valued life in a different way, right? You know, so instead of considering, you know, the economy to be the thing that can't, you know, or for example, certain corporations as too big to fail, we could also think of, you know, certain populations as, you know, as being necessary to save. So it's a different, you know, I think, and to me, it's not about then kind of, bringing them into the price process. So therefore to value those lives via prices, but to just have a different organization, different, to play a different game, right? To have a different operating system. I don't know if that says it better, but yeah.
Yes, thanks a lot.
Moi, je voudrais savoir ce que Arnaud pense de tout ça.
C'est un peu compliqué parce que ça relancerait la discussion alors qu'il est 19h et qu'on doit clore.
Vas-y, vas-y.
Il se trouve que j'ai coécrit un livre sur la question de la valeur et du prix. On conçoit la valeur comme une justification du prix, en fait, donc de manière relationnelle. Et évidemment, par exemple, comme le disait Anne-Sarah, on ne peut pas incorporer la valeur, puisqu'en fait, c'est toujours discursif. C'est la justification du prix. Et donc voilà, donc ça ouvre sur tout un tas d'autres d'autres perspectives, et dans le seul point c'est par rapport à comme une question que posait Fabien sur les questions de la limite du capitalisme et des choses avec un prix ou des choses sans prix. Que tu posais. En fait, pour qu'il y ait un prix, il faut que la chose soit déterminée, c'est-à-dire en fait qu'elle ait une qualification. C'est-à-dire que c'est pas une question simplement que tout peut avoir un prix, bien sûr, tout peut avoir un prix, mais à condition, puisque tu posais la question des conditions, à condition en fait qu'il y ait une stabilité dans la qualification de la chose. C'est-à-dire, par exemple, quelque chose dont on ne sait pas ce que c'est-à-dire qui changerait de forme, dont on a du mal à savoir ce que c'est. Si on dit, ça c'est un verre, ou ça c'est une tasse, mais quelqu'un dit, non, mais ça une autre chose. En fait, on ne peut pas se mettre du tout d'accord sur le prix. Et donc, en fait, c'est simplement que les conditions pour donner un prix à la chose, en fait, ne sont pas réunies, ce qui fait qu'on ne peut pas donner un prix à. Et voilà, donc c'est juste un. En passant sur les problèmes de la frontière de ce qui a un prix et de ce qui n'a pas de prix. Et je rajouterai une dernière chose, c'est que ce qu'on avait montré avec Luc, c'est que il faut maintenir des choses qui n'ont pas de prix pour faire du profit. C'est-à-dire qu'en fait, le profit maximum se fait à la frontière de ce qui est de ce qui en fait est maintenu hors du commerce. Quand tu fais travailler en fait à la frontière, quand tu fais rentrer des choses dans le commerce, que tu fais le profit maximum avec la question du voilà.
Donc là tu dis, tu vas dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, où C'est-à-dire que tu maintiens l'idée que pour que des choses aient un prix, il faut qu'il existe dans le fond de ces choses, des choses qui, elles, ne peuvent pas avoir de prix. Là, tu parles peut-être d'exemples qui sont directement du domaine de l'art, par exemple, des œuvres d'art qui n'ont pas de prix.
Malheureusement, je pense que dans l'art, au contraire, les choses ont très souvent un prix. C'est pas un très bon exemple. Non, je pense. En fait, parce que si tu veux, y compris dans les musées, donc, je pense en fait que les œuvres d'art sont sans prix. Elles ont toujours un prix qui est une valeur d'assurance.
Oui, la valeur d'assurance, bien sûr.
Et donc ça, c'est un prix en fait. Et on voit bien, il y a un très beau travail qui a été fait par Bénédicte Savoie à partir du catalogue, du premier catalogue des œuvres au Louvre, où en fait il a fallu que Vivant Denon fasse le catalogue des œuvres. Et en fait, toutes les œuvres qui sont là ont un prix, y compris les œuvres qui sont des chefs-d'œuvre qui ont été pillées en Italie. Il fait appel à des marchands parisiens pour donner des prix qui, de toute manière, ça reste des prix, même si ces œuvres ne sont pas sur un marché ou ne sont pas vendues par ces marchands. Non, par exemple, une chose qui est très difficile pour laquelle c'est l'objet bricolé. L'objet bricolé, en fait, un objet que tu bricoles, pour toi, ça a une fonction, mais quelqu'un d'autre, ton objet bricolé, n'a pas vraiment d'usage. Alors, toi, c'est très difficile. Tu ne sais pas trop ce que c'est. C'est difficile de lui donner. Il n'est pas stabilisé dans sa qualification, donc il a du mal à devenir une marchandise, donc il a du mal à avoir un prix.
Oui, mais peut-être ça rejoindrait justement la différence entre le discret et le continu. Dans ce que disait Eric sur l'aspect métamorphique de l'objet qui ne peut pas être qualifié en tant que marchandise, ou qui ne peut pas, sur lequel tu ne peux pas poser de prix parce qu'il... dans l'exemple de ta tasse, donc qui serait impossible à capturer. Ça. Non, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Merci. Merci.